Bonjour à chacune et chacun d'entre vous.
Oh, j'ai oublié mon masque.
Donc c'est une joie pour moi de vous exhorter cet après-midi à travers l'étude de la parole de Dieu. Et donc nous allons continuer notre série de prédications donc sur le thème « Dans l'attente de son retour ». Le passage que nous allons voir ensemble est le quatrième de la série. Et j'espère que durant les semaines précédentes, vous avez pu découvrir, en tout cas, vous avez découvert de nouvelles notions concernant le retour de Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Comment cela va-t-il se produire? Comment nous devons nous comporter? En tout cas, si vous avez manqué les prédications précédentes, ou bien que vous vouliez les réécouter, sachez que vous pouvez le faire sur le site de l'Église, donc Église chrétienne missionnaire de Saint-Maur. D'ailleurs, merci à notre frère Denis pour son service, donc pour la bonne gestion du site. Sinon, la semaine dernière, sur le texte de 1 Thessaloniciens, fin du chapitre 4 et début du chapitre 5, pasteur Philippe nous a encouragés à l'encouragement en attendant le retour de Christ. Comme il l'a rappelé, une église qui ne met pas l'encouragement en pratique passe à côté du commandement de s'aimer les uns les autres. D'ailleurs, une application pratique qu'il nous a donnée durant son message, que nous puissions durant la semaine encourager un frère, que ce soit par un SMS, un appel, une visite, si cela est possible, bien sûr. Est-ce que nous l'avons fait? Voyons aujourd'hui ce que la parole a à nous dire. Avant de voir en détail notre texte, j'aimerais rapidement rappeler le contexte de la lettre. L'apôtre rédige la deuxième lettre aux Thessaloniciens peu après sa première. Et d'après les spécialistes, il y aurait un écart de quelques mois entre la première et la deuxième lettre. Il semblerait que, durant cette période d'intervalle, la situation dans l'Église s'est quelque peu aggravée. Les chrétiens thessaloniques font toujours face à la persécution et à l'opposition. Et malgré une montée de l'opposition, l'apôtre souligne le progrès qu'ils font et leur persévérance. Et par exemple, nous pouvons lire dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er, les versets 3 et 4, et voici ce que l'apôtre Paul y dit à leur sujet. « En effet, votre foi fait de magnifiques progrès, et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez envers les autres ne cesse d'augmenter. Aussi exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. » Et après avoir adressé une prière de reconnaissance à Dieu pour la foi, l'amour, la persévérance des chrétiens de Thessalonique, il les encourage face aux souffrances qu'ils endurent et il leur rappelle que Dieu est juste et qu'il rétablira la justice en leur faveur lorsque Christ reviendra. Et à cause de la souffrance, certains chrétiens pensaient justement que le jour du Seigneur, il était déjà là. Et justement, dans notre passage, Paul corrige leur compréhension concernant le retour de Christ et il les exhorte à vivre de la bonne manière en attendant son retour. Nous verrons trois exhortations que Paul adresse aux chrétiens de Thessalonique pour qu'ils puissent vivre de la bonne manière en attendant le retour de Christ. Tout d'abord, l'apôtre les exhorte à ne pas se laisser facilement ébranler dans leur bon sens ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qui serait soi-disant de lui et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Et en fait, Paul, il est conscient que d'autres personnes annoncent un autre message que le sien concernant ce qui va précéder la venue de Jésus. Et c'est pourquoi il leur donne cet impératif au début du verset 3, que personne ne vous égare d'aucune façon. Les chrétiens de Thessalonique ne doivent pas se laisser influencer par ces personnes, par ce qu'elles proclament. Jésus, en Marc 13, a également prévenu ses disciples. Là-dessus, Jésus leur dit, « Faites attention que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. » Et dans notre texte, Paul donne les raisons pour lesquelles les chrétiens ne doivent pas penser que le jour du Seigneur serait déjà là. Verset 3, il dit « Car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. » Verset 4, « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. » Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Et donc, Paul est en train de dire qu'avant que le jour du Seigneur soit là, il y aura un grand rejet de Dieu. Dans d'autres versions, il est dit, il faut que l'apostasie arrive d'abord, c'est-à-dire le reniement public de sa foi, et bon nombre de personnes rejetteront la foi avant la venue du Seigneur. Et sûrement qu'à cause de l'opposition que les chrétiens de Thessalonique rencontraient, ils ont pensé que c'était la fin, que les seigneurs allaient revenir. Mais voilà, Paul leur explique que l'opposition à la foi avant le retour du Seigneur sera encore plus grande, plus dure. Vous vous imaginez, déjà à leur époque, à cause de l'opposition qu'ils connaissaient, ils pensaient que c'était la fin des temps. On peut également se demander, qu'est-ce que les chrétiens qui ont vécu, par exemple, la Première Guerre mondiale ont dû penser ? Sûrement, voilà, que c'était la fin des temps. Et pourtant, voilà, on connaît la suite de l'histoire. Aujourd'hui, nous, avec la situation de la pandémie, que penser de tout cela ? Dans notre passage, Paul parle de l'homme de la révolte ou l'homme de péché destiné à la perdition. De qui est-il question ? Si dans le texte il est question d'un homme, certains commentateurs pensent plutôt qu'il représente un système. Et ils disent que ce représentant de Satan pourrait être le même que l'Antichrist dont l'évangéliste Jean parle dans sa première lettre au chapitre 2. Au chapitre 2. Et voici ce que dit l'évangéliste Jean. « Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. » Et voici ce que Jean dit justement sur l'antichrist. Toujours au chapitre 2. « Alors, qui est le menteur ? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Car l'antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. » On voit que même si Paul n'utilise pas le terme « antichrist » pour désigner l'homme de la révolte, c'est bien de cela dont il est question. Qu'on pense que l'homme de la révolte soit une seule personne ou un groupe de personnes n'est pas l'essentiel. Ce qui est important et à retenir, c'est que ce sera quelqu'un ou un groupe sans foi ni loi, qui rejette et qui s'oppose totalement à Dieu. Le verset 4 le désigne comme l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. Et il faut savoir que dans l'histoire de l'Église, à certaines époques, il y avait un empereur ou un chef d'État qui persécutait les chrétiens. Ces chrétiens, ils ont dû se dire « Non, mais c'est l'antichrist. » Aujourd'hui, nous savons que la Corée du Nord est le pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Nous aussi, on peut se demander si Kim Jong-un n'est pas cet antichrist. Frères et sœurs, Paul ne nous donne pas un portrait précis de l'Antichrist, mais il nous donne des caractéristiques. Il est dit de lui qui veut se faire passer pour Dieu. Et c'est l'idée du verset 4. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. De plus, certains commentateurs disent que ce verset n'est pas nécessairement à prendre littéralement. Le fait que l'homme de la révolte ira s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu signifie que l'homme de la révolte se fera adorer comme Dieu. Lorsqu'il viendra, des personnes le suivront. Ensuite, Paul révèle au verset 6 et 7 et au début du verset 8 que avant que l'homme de la révolte ne vienne, il y a quelque chose ou quelqu'un qui le retient. Et apparemment, les chrétiens de Thessalonique savent de quoi il s'agit, car Paul le leur aurait dit oralement lorsqu'il était chez eux. Et ces versets ont reçu diverses interprétations de grands commentateurs. Et en fait, on pourrait passer beaucoup de temps à essayer de savoir à qui correspond ce qui le retient ou qu'est-ce qui le retient. Mais l'essentiel pour nous est de comprendre que quelqu'un ou quelque chose retient l'action des forces du mal. Et que lorsque cette personne ou cet élément sera écarté, alors viendra l'homme de la révolte. Le mal atteindra son paroxysme. Aujourd'hui, frères et sœurs, la persécution des chrétiens ne cesse d'augmenter. Nous l'avons vu justement le mois dernier lors du culte sur le thème « L'Église persécutée ». Et donc le mal ne fait qu'augmenter. Et on peut se demander si on n'est pas dans ce que Paul il est en train de dire là. Mais ce qui est encourageant pour nous, pour les chrétiens, c'est la suite du texte au verset 8. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance même de sa venue. Lorsque l'homme de la révolte viendra et que le mal atteindra son plus haut degré, le Seigneur Jésus l'anéantira. C'est Jésus qui mettra fin à l'homme de la révolte et à son action. Le verset 9 et 10 indiquent que grâce à la puissance de Satan, il accomplira toutes sortes d'actes extraordinaires, des signes impressionnants et des prodiges trompeurs. Et son but sera de tromper tous ceux qui se perdent. Et si vous remarquez au verset 10, Paul ne dit pas « Il usera de toutes les formes du mal pour tromper les chrétiens. » Mais bien, « Il usera de toutes les formes du mal pour tromper tous ceux qui se perdent. » Et ensuite, Paul donne la raison pour laquelle l'homme de la révolte arrive à les tromper. Parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Frères et sœurs, ce verset nous apprend une vérité importante. L'homme et la femme ont cette responsabilité de décider s'ils veulent croire à l'Évangile. S'ils s'obstinent à rejeter la foi en Jésus-Christ, le verset 11 dit ensuite que c'est Dieu lui-même qui enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient condamnés. Pour toutes celles et tous ceux qui croient en Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, sachez que ce verset est un encouragement. Quand l'homme de la révolte viendra et qu'il usera de toutes les formes du mal pour vous tromper, sachez qu'il n'y arrivera pas. Parce que vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Gardez cette parole dans votre cœur. Et rappelez-vous, Jésus l'anéantira. L'apôtre Paul, après avoir exhorté les chrétiens de Thessalonique à ne pas se laisser si facilement ébranler dans leur bon sens, ni troubler par un autre message en attendant le retour de Christ, il va les exhorter au verset 15 à demeurer ferme et à s'attacher aux enseignements qu'il leur a transmis, soit de vive voix, soit par ses lettres, en attendant le retour de Christ. Frères et sœurs, pour moi, ces deux exhortations sont le cœur du message de l'apôtre Paul. Pour pouvoir vivre de la bonne manière en attendant le retour de Christ, les chrétiens doivent demeurer fermes dans la foi et s'attacher aux enseignements de Paul. Et pourquoi il leur demande cela ? Parce que les chrétiens de Thessalonique, je rappelle, font face à la persécution et à l'opposition. Mais on peut se demander, mais comment demeurer ferme dans la foi lorsqu'ils sont en face de ce genre de situation, en persécution, face à l'opposition ? Paul va les encourager en leur rappelant l'œuvre de Dieu en leur faveur. Lisons les versets 13 à 14. Mais nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifiés et par le moyen de votre foi en la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre leur rappelle que Dieu les aime et que dès le commencement, il les a choisis. Dieu les a appelés pour qu'ils possèdent la gloire de leur Seigneur Jésus-Christ. Paul dit également des propos similaires dans sa lettre aux Éphésiens, au premier chapitre. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qui voulaient adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Frères et sœurs, aujourd'hui en France, on n'est pas persécuté aussi durement qu'à l'époque des chrétiens de Thessalonique, mais on peut être victime d'insultes, de moqueries, de discriminations, que ce soit dans notre travail, nos activités, nos loisirs. Voilà. On m'a déjà dit que voilà, j'étais un crétin de chrétien. Vous, on vous a peut-être dit autre chose ou fait quelque chose. Et comment tenir bon face à ces situations où notre foi est mise à l'épreuve ? En nous rappelant les propos de l'apôtre Paul. Que Dieu nous aime et qu'il nous a choisis. Qu'en Jésus, nous avons la vie éternelle et que lorsqu'il reviendra, nous serons à ses côtés. Oui, qu'est-ce que cela fait du bien de savoir qu'on est aimé, que nous avons une réelle espérance lorsque nous sommes dans la souffrance, notamment face à l'opposition. C'est ce qui est dans le contexte. C'est pourquoi je nous invite, si nous connaissons des frères ou des sœurs en Christ qui sont dans des situations d'épreuve, de les appeler, de les visiter. Déjà pour leur témoigner qu'on les aime, mais également pour leur rappeler que Dieu les aime et que rien ne pourra les arracher à l'amour que Dieu leur a témoigné en Jésus-Christ. Aussi, qu'en est-il de notre attachement aux enseignements de Paul ? Est-ce que nous nous laissons facilement ébranler dans notre bon sens lorsque des gens nous annoncent que la fin des temps arrive ? Aujourd'hui, dans notre époque, les informations circulent tellement vite avec Internet. On est tellement submergé par les fake news, notamment avec les réseaux sociaux, voilà, où on peut voir des personnes qui prétendent être le Messie ou des personnes qui observent toutes sortes de signes pour pouvoir prédire le retour de Jésus. Frères et sœurs, Déjà à l'époque de Paul, il était conscient que d'autres personnes annonceraient un autre message que le sien. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Faisons preuve de discernement. Comment savoir si les gens disent la vérité ? En méditant la parole. Est-ce que le message que nous entendons est conforme à l'ensemble de la Bible ? Jésus est-il au centre de ce message que les gens annoncent ? Est-ce que ce message, il est là pour lui rendre gloire ? La question que je nous pose, c'est que, est-ce que nous prenons du temps à lire et à méditer l'Écriture ? Ou prenons-nous plus de temps sur les réseaux sociaux, sur Netflix, YouTube, WhatsApp, Messenger ? Frères et sœurs, je nous encourage à prendre du temps pour lire la parole de Dieu et à demander à Dieu de nous la faire comprendre. Et pour finir, en attendant que notre Seigneur ne revienne, ne nous laissons pas si facilement ébranler par des gens qui nous racontent un autre message que l'Évangile. Demeurons fermes dans notre foi et attachons-nous à l'Écriture. Persévérons à vivre d'une manière qui puisse l'honorer en comptant non pas sur nos propres forces, mais en comptant sur Dieu, le Père, et sur Jésus notre Seigneur. À pratiquer toujours le bien, en actes et en parole. Je vous invite à vous lever et nous allons prier ensemble. Oui, Père, merci encore pour ta parole. Et Seigneur, garde-nous tout au long de ce temps de culte que nous puissions nous souvenir de ce que tu as fait pour nous, Seigneur, à la croix, et que nous puissions vraiment mettre notre confiance en toi, Seigneur, que nous puissions demeurer fermes dans la foi, parce que, Seigneur, c'est vrai que lorsque viendra des temps de tempête, des épreuves, que nous puissions demeurer en toi, que nous puissions regarder à toi, non pas à nos faiblesses, nos problèmes, mais que nous puissions regarder à toi. Lever les yeux vers Jésus-Christ. Garde-nous encore durant cet après-midi dans tout ce que nous allons faire, que nous puissions te rendre gloire. Merci encore pour ta parole. Et tout ceci, je te prie dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.